France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Gwendoline Troiano, Barthélémy Gaillard, Sacha Mattei et Antoinette Benoît, réalisé par Vivian Lecuivre, et à la technique ce matin, c'est Sofiane Aktib. C'est le deuxième volet de notre série consacrée au désarmement des guérillas. Nous parlons hier de la lettre d'Abdullah Öcalan, le chef historique du PKK, qui appelle à sa dissolution. Aujourd'hui en Colombie, la réintégration des anciens FARC dans la vie civile. Un processus de paix qui suit son cours, même si des groupes dissidents des FARC ou d'autres groupes armés qui n'ont pas signé la paix ont semé la désolation encore en janvier dans une région proche du Venezuela.
Eh bien, ce sont les FARC qui prennent tout. Ils nous ont attachés de 11h du matin à 6h de l'après-midi.
Ils ont dit qu'ils allaient chasser tout le monde, tuer des gens. Tout le monde a eu peur.
Tout ce qui concerne les problèmes de fond qui touchent les régions et tout le pays, rien n'a été résolu. C'est pourquoi, je vous le dis, tant que les causes profondes à l'origine de ce conflit ne seront pas réglées, l'organisation continuera de grandir.
La situation dans la région de Catatumbo est révélatrice de ce qui se passe dans le pays. Nous devons apprendre de nos échecs et nous sommes face à un échec. C'est un échec de la nation.
Paix totale égale échec total, a pu lire sur les murs des maisons du Catatumbo un journaliste du média en ligne colombien Cambio, relayé par Courrier International. Dans cette région du nord-est du pays, la guerre entre l'ELN pour Armée de Libération Nationale et des groupes qui se présentent comme dissidents des FARC ont obligé plus de 52 000 personnes à quitter leurs terres en quelques jours au mois de janvier. 57 corps ont été retrouvés, il y en a sans doute bien davantage. Et le journal de raconter que dans certaines communes, un drapeau blanc ondule devant toutes les maisons, au passage d'une caravane humanitaire que l'ELN a exceptionnellement laissé passer, en laissant vide pour quelques heures les chaises blanches en plastique posées sur les points de contrôle habituels. Cette actualité dramatique donne encore l'image d'une Colombie à feu et à sang, l'inverse de ce que promettait Gustavo Petro quand il a été élu président il y a maintenant 3 ans, engageant des discussions avec les groupes armés pour les convaincre de se démobiliser. C'est ce qui avait été entrepris avant lui avec les FARC, pour Force Alternative Révolutionnaire de Colombie, un accord de paix signé en 2016 après 60 ans de conflits armés. On estime aujourd'hui que 13 000 personnes ont ainsi déposé les armes quand elles en avaient et bénéficié de programmes de réinsertion dans la société. Le programme est-il pour autant une réussite totale? Justement, l'existence d'un parti mené par d'anciens FARC a-t-il permis de faire avancer des questions comme celle de la redistribution des terres qui était au cœur de la lutte des FARC à l'origine? Les autres groupes armés ont-ils profité du vide laissé par les FARC. Ici et là, nous en parlons ce matin avec nos deux invités. Bonjour Julie Massal.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheuse indépendante associée à l'IFEA. Vous êtes spécialiste des mouvements sociaux, notamment sur la Colombie, et vous êtes en duplex depuis les bureaux de Radio France à Lyon. Bonjour Camille Boutron.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Vous êtes sociologue, chercheuse associée à l'Institut pour la paix. Vous avez fait paraître l'année dernière aux éditions Les Pérégrines dans la collection Genre le livre Femmes combattantes. Et vous êtes en train de préparer un documentaire sur un couple d'anciens combattants des FARC que vous suivez depuis l'accord de paix. Camille Boutron, Patricia et Raphaël, ce sont leurs noms. Qui étaient-ils? Quel était leur rôle ou leur fonction au sein des FARC et comment vous les avez rencontrés?
Alors, j'ai d'abord rencontré Patricia, puisque à l'époque, on est au lendemain des accords de paix, on est en 2017. Je travaillais sur la façon dont les questions de genre et d'égalité de genre étaient diffusées. Patricia était la correspondante locale de ces questions-là. Et on était à ce moment-là dans à Arauca, qui est pas très très loin d'ailleurs du Catatumbo, dans un des camps de démobilisation. Et nous avons noué une amitié. Elle était en couple avec Raphaël, qui était aussi un ex-combattant des FARC. Ils ont eu plusieurs rôles et fonctions. Hein. Ils ont chacun fait une bonne quinzaine d'années dans la guérilla. Ils sont rentrés très jeunes. Et on est resté en contact. Et surtout, je me suis attachée à les suivre dans leur parcours de vie depuis qu'ils ont déposé les armes. Ça fait quand même maintenant 8 ans.
Ils les ont vraiment.
La façon dont ils cherchent à accéder aux droits.
Ils les ont vraiment déposés, les armes? C'est-à-dire, est-ce qu'ils en avaient? Parce que parmi les 13 000 personnes dont on dit qu'elles ont été démobilisées, qu'elles ont déposé les armes, en réalité, toutes n'en portaient pas pendant la guerre que les FARC menaient avec l'État colombien.
Alors oui, c'est toujours assez compliqué. Mais c'est toujours important de prendre en compte ceux qui ne portent pas les armes dans un programme de démobilisation classique. C'est une arme, un programme. Mais en fait, c'est souvent plus compliqué que ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui font partie des groupes armés, qui ont un rôle, qui sont à la clandestinité, qui y passent beaucoup de temps, qui n'ont pas eu forcément d'armes. Et ça n'empêche pas qu'ils vont eux aussi avoir besoin d'être réinsérés. Donc la question de l'arme, elle est à prendre avec des pincettes, en fait, dans les questions de démobilisation. Dans le cas des FARC en particulier, ce qui se passe, c'est qu'on avait environ, Julie m'arrêtera peut-être, mais on avait environ 7000 combattants et combattantes en uniforme, dans des fronts, dans des blocs, de façon très organisée. C'est vraiment comme une armée assez, entre guillemets, classique. Et on avait à peu près la même quantité de personnes qui étaient des miliciens ou des miliciennes, c'est-à-dire, pour le coup, des individus qui vivent en ville, qui travaillaient pour les FARC, pour la logistique, l'approvisionnement, la gestion des comptes en banque, enfin, il y a tout un ensemble de tâches qui, eux, n'étaient pas en uniforme et n'étaient pas nécessairement armés. Et ce qu'on réussit plus ou moins à négocier les chefs des FARC, c'est que, justement, les miliciens soient inclus dans les programmes de démobilisation. D'où le débat sur l'arme et pas l'arme, qui n'en est pas tout à fait un, en fait.
Et eux, Patricia et Raphaël, pour rester encore un petit peu sur ce cas particulier, qu'est-ce qui les avait convaincus en 2016 que eux aussi devaient se présenter à ce programme de démobilisation, renoncer à la lutte armée et profiter de cette ouverture qui leur était proposée?
Alors, Patricia et Raphaël, ils ont suivi des ordres, en fait, comme bon nombre de combattants et de combattantes FARC. Alors, bien sûr, ça a été négocié, ça a été discuté. Il y a eu des moments de discussion à l'intérieur de l'organisation. Et ça n'a pas été qu'une décision verticale, mais de façon générale, à partir du moment où des négociations de paix étaient entamées, c'était pour se démobiliser. Donc c'était une recherche de paix. Patricia et Raphaël, typiquement, de dire qu'ils n'ont aucun regard en arrière, c'est pas tout à fait vrai, on pourra peut-être y revenir, mais ils étaient complètement convaincus qu'il fallait avancer vers une autre étape, non seulement de leur histoire à eux, mais aussi de l'histoire des FARC, et plus généralement de l'histoire de la Colombie. Un petit peu à trois niveaux comme ça.
La démobilisation, c'est un terme que les anciens FARC n'emploient pas toujours eux-mêmes. Ils parlent plus volontiers de réincorporation quand vous les interrogez, Camille Boutron. Et beaucoup disent que, certes, les conditions qui leur ont été offertes en 2016 pour désarmer, pour se démobiliser, étaient intéressantes, mais ne suffisent pas aujourd'hui pour leur assurer une vie à laquelle ils aspiraient.
Réintégrer la société n'a pas été facile. Ça a même été très difficile. Nous avions appris à vivre en communauté. Et nous formions une famille. Une famille unie. Retourner dans la société a été un choc, car on n'y retrouve pas de solidarité, de fraternité, de camaraderie. C'est la politique du chacun pour soi.
C'est très dur d'assimiler les codes de la vie en société. Et le retour dans ma famille, ce fut... comment dire? J'étais très émue. De voir qu'elle vivait toujours dans les mêmes conditions. On a tant lutté pour obtenir des changements, et malgré tout, on constate que rien n'a évolué. Même avec le processus de paix, les conditions de vie en Colombie continuent d'empirer chaque jour.
d'anciens membres des FARC rencontrés par Camille Toulmé et Clémentine Athanasiadis pour le reportage diffusé sur Arte Colombie, l'impossible réconciliation. On avait reçu d'ailleurs dans Culture Monde Camille Toulmé dans un retour de terrain pour en parler un vendredi. Julie Massal, est-ce que le processus de démobilisation des FARC est aujourd'hui considéré comme terminé, 9 ans après l'accord de paix? Est-ce que le discours officiel en Colombie, c'est de dire que cette page est tournée?
Oui, bonjour. Non, alors c'est pas vraiment terminé, c'est même de moins en moins terminé, je dirais. Alors, je voudrais juste revenir sur un terme qui a été utilisé, effectivement, de réintégration. En fait, on a plusieurs concepts qui désignent un peu les différentes phases du processus. Donc, on commence effectivement par éventuellement le dépôt, la reddition des armes et ce qu'on appelle le processus de démobilisation. Ensuite, on a effectivement une première phase qu'on appelle plutôt réinsertion, qui est, disons, la première année juste après la démobilisation, qui consiste effectivement dans cette phase transitoire de passage de la vie de combattant ou de milicien vers la vie civile, avec une première forme d'aide sous forme de soutien économique minimal, une aide à la couverture santé, au logement, etc., et éventuellement de petites formations.
Aide minimale, c'est quoi? 90% du salaire minimum?
Alors, à un moment donné, il avait été évoqué, je me rappelle plus en termes de taux de change de l'époque, c'était 1,8 million de pesos, ce qui était quand même plutôt élevé par rapport au salaire minimum de l'époque qui était environ de 800 000 pesos, si je me souviens bien à l'époque.
En euros, pardon, ça fait à peu près.
Alors, en euros, ça faisait pas énormément, ça faisait 300, 400 euros à peu près de l'époque. Mais c'était quand même considéré comme une aide importante à ce moment-là par rapport justement au salaire minimum et au salaire, on va dire, moyen de dans la population, ce qui générait des difficultés. J'y reviendrai peut-être un peu plus loin.
Des pressions de la société colombienne, vous pouvez en dire quelques mots, bien sûr, Julie Massal.
Oui, effectivement, parce que ça posait un petit peu question de comment ça se fait que des combattants qui se démobilisent gagnent plus que quelqu'un qui travaille, pour le dire très schématiquement. Donc voilà, ça générait pas mal de frictions au moment de la négociation, notamment de l'accord de paix en 2016. Et donc, après cette phase de réinsertion, il y a une phase qu'on appelle plutôt de réintégration, donc le terme qui a été utilisé tout à l'heure, où effectivement, c'est déjà un processus un peu plus moyen terme ou long terme, où il s'agit effectivement de rentrer dans les codes de la société, dans les codes du travail, éventuellement de retrouver un travail stable, ce qui est difficile parce que c'est déjà peu le cas en Colombie. Il y a une économie quand même essentiellement informelle. Et puis aussi un accompagnement psychosocial, une aide à la formation, à l'éducation, une aide à la santé, etc., qui vont un peu au-delà de la première phase de réinsertion immédiate, qui normalement était pensée pour aller jusque 6 ans et demi à peu près dans ce cas-là. Donc on est maintenant 8 ou 9 ans après, et en fait ces processus là ne sont pas complètement terminés, voire même ont un peu régressé en termes d'aide et de soutien financier, et puis aussi ont un peu disparu du débat public, on va dire permanent, justement face à d'autres problèmes qu'on évoquera plus loin, notamment sur les dissidents. Et finalement, juste pour terminer sur ce plan-là, normalement, on est censé arriver à une phase de réincorporation qui suit donc la réintégration. Et la réincorporation, c'est vraiment à long terme une phase d'intégration complète dans la société à laquelle on n'est pas arrivé à ce jour.
Sachant qu'il y avait dans les accords de paix signés en 2016 une phase de transition pendant laquelle les combattants devaient se regrouper dans des camps pour définir leur statut juridique et financier notamment, et que soit décidé leur avenir immédiat. Ces camps, ils semblent avoir persisté, puisque les FARC, les anciens FARC qu'on a entendus dans le documentaire précédent, ils y sont toujours dans ces camps-là. Est-ce que c'est le cas de tous ceux qui avaient été montés? D'ailleurs, combien à peu près avaient été mis en place? Et est-ce que ce qui devait n'être que temporaire a duré partout?
Alors effectivement, on avait une 20aine de camps. Alors en fait, on ne les appelait pas vraiment des camps, on les appelait des espaces territoriaux de formation et de réincorporation, qui étaient censés être effectivement une phase transitoire de normalement maximum un an et demi, mais qui effectivement ont perduré dans le temps. Donc un certain nombre de combattants démobilisés sont restés dans ces camps, 3, 4, voire encore certains y restent, même si c'est moins le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, à peu près, enfin un peu, il y a en novembre 2022, pardon, il y avait à peu près 70% des ex-combattants qui vivaient hors de ces espaces territoriaux. Donc bon, ça a quand même diminué, mais effectivement, le problème n'est pas totalement résolu à ce niveau-là. Et le problème surtout, c'est que c'était une phase transitoire pendant laquelle on devait aider justement les personnes à définir leur on peut dire leur projet professionnel avec des grands mots, sinon, soit pour revenir effectivement dans la vie urbaine, se réintégrer, on va dire, dans ce milieu-là, soit pour, au contraire, plutôt rester dans l'espace rural, à la campagne, parce que les FARC étaient aussi composés de gens qui étaient quand même issus des campagnes. et de développer, disons, des projets qu'ils appelaient des projets productifs plutôt orientés vers l'économie agricole.
C'est le cas de Patricia et Raphaël, par exemple, Camille Boutron, pour en revenir à ce couple d'anciens FARC que vous suivez depuis longtemps.
Tout à fait. Tous les deux, ils viennent du monde rural. D'ailleurs, à l'heure actuelle, ils sont installés dans la région d'origine de Raphaël, qui est le Casanare, qui est une région grande dans l'est de la Colombie. Et leur but, depuis le début, il est de pouvoir accéder à des terres, d'y installer une ferme, de pouvoir cultiver la terre, de pouvoir faire un petit peu d'élevage. Leur souhait, leur projet n'est pas forcément celui de tous et toutes les ex-combattants des FARC, mais il est quand même assez représentatif d'une grande partie d'entre eux, puisqu'on a quand même, comme l'a dit très bien Julie, une grande partie des ex-combattants des FARC qui sont quand même d'origine rurale paysanne. Et oui, eux, tout à fait.
L'hebdomadaire colombien Semana tient depuis longtemps, enfin depuis le processus de paix, une liste d'anciens guerriers des FARC qui ont été assassinés par des paramilitaires après l'accord de paix ou par des groupes armés qui se battent pour contrôler des zones stratégiques pour le narcotrafic, que ce soit Villa Vincencio, Uribe, Pitalito, dans le Putumayo, à Cumbal et même en plein centre de Bogota. Il y a depuis 2016 de très nombreux règlements de compte et d'anciens combattants des FARC désarmés. Armées qui se retrouvent cibles d'autres guérilleros ou de trafiquants. Comment le vivent Patricia et Raphaël? Est-ce qu'ils vous parlent de la peur qu'ils auraient pour leur sécurité?
Pas vraiment. Alors, ils ne disent pas qu'ils ont peur. Ils parlent, en revanche, ils disent qu'ils sont conscients qu'éventuellement, il peut leur arriver malheur. D'autant plus qu'en réalité, ce qui fait un petit peu, entre guillemets, la différence de Patricia et de Raphaël, c'est qu'ils ont pris le lead, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, de l'association d'ex-combattants des FARC. Alors eux, ils s'appellent les signataires de la paix, hein, c'est comme ça qu'ils se réfèrent à leur statut, ce qui est d'ailleurs assez correct. Ils sont une centaine de signataires de la paix, donc de leur région. Ils ont formé une association et le but était de se dire que collectivement, ça allait être plus facile d'accéder, enfin de faire en sorte que les promesses contenues dans l'accord de paix vis-à-vis de l'accès à la terre, la possibilité de construire sa maison, enfin il y a tout un ensemble comme ça de données, que ça allait être beaucoup plus facile de le faire de façon collective, tel que prévu par l'accord d'ailleurs. Et Raphaël a pris la direction de cette association, c'est lui qui en est le président, alors ils ont un bureau, hein, il n'est pas le seul, mais du coup il est le plus exposé. Et en effet, Raphaël, il se déplace en 4x4 blindé, il a deux gardes du corps qui sont eux-mêmes des ex-combattants qui ont été formés par les forces de l'ordre colombiennes à la protection des personnes. Donc ça, c'était aussi contenu dans l'accord. Hein. Et qui, dès qu'il sort de sa maison, on est dans le 4x4 blindé avec ses gardes du corps. Hein, son schéma de sécurité, comme on dit. Donc on a quand même ça. Alors il n'est pas le seul. Hein. Je suis aussi une militante de droits humains qui n'a rien à voir avec les FARC et qui a le même schéma de sécurité. Donc ce n'est pas que pour les FARC. Mais ça, c'est une donnée. En fait, ça fait partie de leur routine, de leur quotidien. Mais de là à exprimer la peur, non. Ils sont conscients. Et pour eux, ça vaut la peine d'être fait, en fait. Mmh. Voilà.
De mener à bien, de mener jusqu'au bout la démarche qu'ils ont entreprise et de convaincre aussi peut-être d'anciens FARC de démobiliser parce que tous ne l'ont pas fait. Alors, c'est pour ces raisons de sécurité que certains racontent qu'ils n'osent plus sortir de l'espace territorial de réinsertion dont vous nous parliez tout à l'heure, Julie Massal, de ces zones d'accueil censées être temporaires, la vingtaine qui subsistent sur tout le territoire colombien. D'autres, au contraire, le quittent précocement et définitivement parce que la vie y est devenue trop dangereuse. Ça a été le cas l'été dernier quand d'anciens combattants des FARC ont dû fermer un club de rafting qu'ils avaient créé au nord de Cali, Ramé pour la paix, et qui avait représenté d'ailleurs la Colombie au championnat du monde de rafting en 2019 en Australie, pour l'anecdote. En tout cas, eux disent qu'ils étaient trop exposés à d'autres groupes armés, soit qui venaient s'inviter sur des terres que eux avaient laissé précédemment, soit peut-être, Julie Massal, par d'anciens FARC. Est-ce qu'aujourd'hui, les FARC démobilisés sont menacés également par tous ceux qui s'appellent des FARC dissidents ou des FARC qui avaient déposé les armes et les ont reprises ensuite?
Oui, alors en fait, on peut distinguer un petit peu deux situations. La situation qui s'est présentée effectivement juste après la démobilisation dans les 2-3 premières années, où effectivement on a vu surtout des assassinats de combattants démobilisés par ceux qui n'étaient pas encore démobilisés, parce qu'il y en a effectivement un certain nombre qui ne se sont pas démobilisés tout de suite, et donc qu'on appelle dissidents. Mais aujourd'hui, on a une situation où on a une multiplicité de groupes armés de toute nature, j'y reviendrai peut-être un petit peu plus loin, c'est pas forcément des anciens FARC qui attaquent des combattants ex-FARC démobilisés ou des FARC pas encore démobilisés qui attaquent des démobilisés, ça peut vraiment être de toutes sortes d'acteurs armés qui s'affrontent entre eux dans des régions, donc dans une certaine région par exemple, il peut y avoir une quinzaine ou une vingtaine de groupes qui s'affrontent entre eux. Donc ça peut être aussi bien des anciens FARC contre des démobilisés FARC, que, comme on le verra dans le Catatumbo, l'ELN, donc l'autre guérilla, l'Armée de Libération Nationale, contre des dissidents FARC qui sont en voie de démobilisation, donc qui ne sont pas encore démobilisés. Donc c'est des situations extrêmement confuses, enchevêtrées, en termes de multiplicité des acteurs armés qui s'affrontent entre eux sur certains territoires, et pas que dans les espaces territoriaux, mais de façon générale dans les régions, notamment la frontière avec le Venezuela, dans le Arauca, le département Arauca, mais aussi à la frontière avec l'Équateur, dans le Putumayo et le Nariño, où en fait c'est des régions qui sont caractérisées aussi par la production de coca et donc qui sont très importantes sur les routes du narcotrafic. Les affrontements entre ces groupes armés visent à contrôler ces routes du narcotrafic.
C'est pour ça que c'est toujours très confus de comprendre quand on parle de combats qui ont encore lieu aujourd'hui en Colombie, dans le Nord-Est, mais aussi dans certaines régions du Sud, de comprendre quand on parle de groupes dissidents des FARC, s'il s'agit réellement de groupes dissidents qui ont vraiment eu des liens avant 2016 avec les FARC, ou s'il s'agit de groupes qui, a posteriori, se sont autoproclamés groupes dissidents des FARC, ou s'il s'agit tout simplement de cartels de drogue?
Alors, il y a un peu un mélange effectivement de situations. Donc, si vous voulez, pour schématiser un petit peu, il y a ceux qui ne se sont jamais démobilisés, qui sont restés mobilisés même après l'accord de paix, donc qui sont restés en armes, et qui se sont mélangés avec d'autres acteurs, donc des acteurs armés, mais aussi des acteurs mafieux, criminels, donc en lien notamment avec le narcotrafic. Donc effectivement, là, il y a une confusion des genres, si on peut dire comme ça, entre ces différents acteurs. Et puis vous avez d'autres acteurs qui, eux, sont plutôt des acteurs qui se sont démobilisés en 2016, et qui se sont remobilisés par la suite, notamment en 2019, dans de nouveaux groupes. Alors certains issus des FARC, d'autres pas forcément, mais qui, à leur tour, se sont aussi mélangés avec des acteurs armés d'autres natures. Donc ce qui est important peut-être à retenir, plutôt que dissidents ou non-dissidents, c'est plutôt quel est le discours qui est utilisé pour justifier cette remobilisation ou cette perpétuation du conflit, du combat armé.
Avec parfois des situations encore plus confuses, comme par exemple il y a quelques semaines ont éclaté des affrontements dans le sud de la Colombie entre des factions armées, entre des hommes de Calarca, qui est le chef d'un groupe dissident des FARC qui négocie la paix avec le gouvernement colombien, et ceux d'Ivan Mordisco qui lui refuse de négocier, mais tous se réclament des FARC, si j'ai bien compris. Enfin, tout ça est en effet très très confus. Camille Boutron, est-ce qu'on peut au moins essayer de comprendre ce qui a motivé certains combattants des FARC à garder les armes ou à les reprendre, parce que certains ont profité du processus de démobilisation pour finalement reprendre les armes et retrouver le maquis?
Alors, je serais peut-être mieux placée pour vous dire qu'est-ce qui a pu pousser certains ex-combattants et ex-combattantes à rester dans les programmes et à vouloir maintenir leur trajectoire de réincorporation coûte que coûte. Après, je peux vous donner une petite anecdote. Je discutais avec Raphaël et là, c'était il y a 4 ans. C'était il y a 4 ans, puisqu'en fait, je les suis depuis 8 ans. J'essaye de passer du temps avec eux au moins une fois par an. Et puis, ils venaient d'avoir leur deuxième enfant, puisqu'ils ont eu des enfants. Et ça a été très important aussi hein, pour leur projet, comme beaucoup d'ex-combattants et ex-combattantes des FARC qui ont commencé à fonder une famille, ce qui était impossible à faire dans la guérilla. Et ça a été un facteur, je pense, assez important pour rester dans la vie civile. Donc peut-être aussi que ce sont ceux qui avaient le moins d'attaches dans la vie civile ou la société civile qui ont été le plus à même de vouloir reprendre les armes, puisque finalement c'est là que la famille ou l'habitude ou la routine ou les repères se trouvent. C'est un premier élément d'explication. Je sais que Raphaël m'avait dit, sous le ton un peu de la confidence, pas de façon non plus extrêmement sérieuse, mais il m'avait dit c'est vraiment galère Donc ça, c'était bien avant, c'était juste avant qu'ils forment leur association de façon officielle. Elle existait déjà, mais elle n'avait pas de statut légal. Donc on était au tout début du processus que je vous ai raconté. Ils me disaient, c'est vraiment galère. Honnêtement, je n'aurais pas femme et enfant, je serais repartie dans la jungle parce que c'est vraiment trop compliqué et j'en ai marre.
Donc c'était bon, plutôt pas, pour voilà, ça.
C'était dit comme ça. Donc ouais. ça peut être un bon facteur d'explication.
C'était pas nécessairement une nostalgie de ces années de résistance et de l'idéal politique pour lequel il s'était battu. C'était parce qu'il trouvait que la vie démobilisée était plus galère, comme il l'a dit, que qu'avant, qu'il avait moins de moyens de subsistance, par exemple.
Oh, un mélange de tout. Alors, je pense pas que c'était les moyens de subsistance pour le coup, parce que il faut savoir qu'en plus, ce qui a été assez difficile, c'est que les ex-combattants, ex-combattantes ont quand même eu des petites rentes. Ils ont eu un certain capital économique de départ au moment de leur réinsertion, mais tous et toutes n'ont pas su comment le gérer finalement, puisqu'en fait, quand on parle de combattants des FARC, on va parler de quelqu'un qui est éventuellement rentré à 15 ans dans la lutte armée, qui s'y démobilise à l'âge de 35, 37, 40 ans, et qui, pendant toutes ces années, n'a jamais eu à se demander comment gérer son budget, son argent, tout ça a été pris en charge par l'organisation. Donc l'arrivée dans la vie civile, tout d'un coup, avec les tâches bêtes et méchantes, hein, qui sont gérer un budget, ça a pu être assez difficile. Pour certains et certaines, Patricia et Raphaël, ils s'étaient préparés à ça, ils ont été assez prévoyants. Donc, ce n'était pas tellement ce problème-là. Dans son cas, je pense qu'il y avait deux choses. Déjà, oui, un peu de nostalgie. Il se trouve que Raphaël et Patricia sont mobilisés. Ils se lèvent le matin, ils ont les infos sur leur téléphone portable pendant qu'ils font le petit-déj. Voilà, eux, c'est pas le cas de tous. Hein. Mais en tout cas, eux, ils sont intéressés à ce qui se passe dans le monde et leurs projets, bien qu'il soit très familial, et pour eux, politique. Donc, ils ont ce profil-là. Donc, oui, il y a un petit peu de nostalgie. Après, ils forment leur association et il n'a pas perdu les liens. Mais c'est surtout, de ce que je comprends, c'est qu'en fait, on avait des ex-combattants et ex-combattantes d'un côté, avec des institutions publiques spécifiquement montées dans le cadre de l'accord de paix et de son implémentation de l'autre. Et puis, un petit peu entre les deux, on a les fonctionnaires, mais locaux, régionaux. Et Raphaël me disait que ce qui est extrêmement difficile, c'est que finalement, dans ses rapports avec la police au niveau local, avec les fonctionnaires de l'ARN, qui est l'agence
de réinsertion,
en charge justement de gérer tous ces programmes de démobilisation, là, c'était très difficile. Ils étaient plutôt discriminés. Les rapports n'étaient pas très bons. Et ça, ça lui a plusieurs fois donné envie de tout lâcher, quoi.
Alors, quand ils reprennent les armes de façon, entre guillemets, officielle, comme l'été 2019, l'ancien numéro 2 des FARC, Ivan Marquez, qui apparaissait dans une vidéo en treillis militaire entouré d'autres combattants, il annonçait reprendre le combat au nom du droit universel des peuples à se lever en armes face à l'oppression. Alors lui, c'est un chef, mais on peut s'interroger aussi sur toutes les motivations de tous ceux qui, à sa suite, ont finalement décidé de reprendre les armes après avoir, pour certains, bénéficié les premiers mois ou les premières années du programme de démobilisation. Même si on estime aujourd'hui que beaucoup relèvent en fait du banditisme ou du narcotrafic dans ceux qui ont repris les armes, Julie Massal, est-ce que néanmoins beaucoup disent que l'État les a trahis, que les terres agricoles qui devaient être distribuées ne l'ont pas été? Est-ce que ceux qui reprennent la lutte disent le faire au nom, pour des raisons politiques?
Alors, effectivement, il y a ce discours-là qui peut avoir certains fondements dans la réalité, dans la mesure où la mise en œuvre de l'accord de paix de 2016 par le gouvernement qui a suivi, donc le gouvernement Duque entre 2018 et 2022, a été très largement freinée, aussi bien sur le plan économique et social que sur le plan politique. Donc un des éléments effectivement qui a donné des arguments à ce discours, c'est de dire que la redistribution des terres aux paysans, donc des terres qui ont été accaparées par des acteurs privés pendant le conflit armé, pendant des décennies, ces terres qui devaient être redistribuées aux paysans est très très lente. Elle avait commencé avant même le processus de, enfin avant même l'accord de paix, mais elle est toujours très lente. Et donc effectivement, il y a eu des frustrations énormes à ce niveau-là. Il y a aussi une partie aussi de l'accord de paix qui consistait justement à aider les paysans à se reconvertir, par exemple, pour cesser de cultiver la coca et pour cultiver d'autres produits agricoles, mais qui eux-mêmes sont sous la pression d'acteurs armés qui les en empêchent. Donc il y a toute une série de, on va dire, de situations objectives et factuelles qui ont donné certains fondements à ce discours-là. Mais c'est aussi un discours qui, à ce moment-là, donc en 2019, en août 2019, était clairement orienté contre le gouvernement colombien de cette époque-là, qui se justifie moins aujourd'hui dans la mesure où le gouvernement Petro avait quand même, en tout cas à son arrivée au pouvoir, un projet politique et social qui répondait en grande partie à des attentes de la société et des anciens combattants démobilisés des FARC, notamment en termes de réformes agraires, notamment en termes de développement local favorable aux économies paysannes et aux cultures vivrières, par exemple. Mmh. Et donc, c'est un discours qui se justifie, enfin, qui s'entend moins aujourd'hui.
Est-ce que les projets d'infrastructure ou de développement que Gustavo Petro avait amorcés suite à des dialogues, y compris régionaux, très locaux, avec des municipalités, avec la population colombienne, avec des associations paysannes, pour aborder ces enjeux de développement, est-ce que tous les projets qui ont été à l'époque, quand je dis à l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps, 2022, 2023, 2024, étaient abordés et mis en route, est-ce qu'ils sont liés, corroborés d'une certaine façon et conditionnés surtout à la paix dans les régions? On vous donnera et on mettra en place cette école, ce centre de santé, etc. si on arrive vraiment à créer les conditions de la paix.
Alors c'est effectivement un des objectifs de la paix totale, donc c'était la politique qui consistait à négocier avec plusieurs groupes armés en même temps pour effectivement obtenir une reddition de ces groupes plus ou moins simultanés dans le temps, ce qui n'a pas été le cas, mais qui avait comme objectif effectivement d'obtenir une diminution de la confrontation armée entre ces groupes et de permettre effectivement des projets de développement local dans telle ou telle région au bénéfice des populations et en consultation avec ces populations. Donc un des aspects, je dirais, qui devait permettre de mettre en œuvre cette paix totale du point de vue social et économique, c'était la consultation et la négociation d'un plan de développement qui se négocie tous les 4 ans et donc qui s'est négocié en 2022 quand il est arrivé au pouvoir et qui s'est fait grâce à des consultations avec des organisations paysannes, locales, etc. La difficulté que ce projet a rencontré, c'est que d'une part, la paix totale en termes militaires n'a pas réussi à limiter la confrontation armée et donc à faire baisser les homicides et la violence, etc. Bien au contraire. Et que par ailleurs, l'État a des ressources économiques assez limitées et doit non seulement financer ses projets de développement issus ou qui découlent de l'accord de paix avec les FARC, mais aussi garder des ressources pour négocier avec les autres groupes armés. Donc ça pose un problème économique majeur.
Et en attendant tous les emplois, par exemple, qui avaient été promis ou en tout cas envisagés en disant on va essayer de créer des emplois pour faire en sorte que nos jeunes n'aillent pas trouver refuge dans des guérillas où ils penseront que l'avenir leur sera plus favorable parce qu'ils n'ont pas du tout de porte de sortie dans leur commune, eh bien tout ça n'a pas été mis en place. C'est ce que dit par exemple cette mère de famille qui s'appelle Maria et qui dit que dans le Catatumbo, son fils n'a rien à trouver.
Ici, il n'y a aucune opportunité pour les jeunes. Il n'y a pas de professeur. Il n'y a aucun établissement de santé. Rien non plus pour les premiers soins. Le résultat de tout ça, c'est que beaucoup de personnes, et surtout de nombreux jeunes, choisissent de rejoindre des organisations armées. Et ce n'est pas parce qu'ils le veulent, mais parce que c'est leur seule option. Il n'y a rien pour eux ici. Et malheureusement, oui. Oui, bien sûr, j'ai peur. Je ne veux pas que mes enfants aient la même vie que la nôtre. J'ai peur de les perdre. Le gouvernement parle de paix, mais tant qu'on aura faim, il n'y aura pas de paix.
Alors, il se trouve que certains combattants d'anciens combattants des FARC avaient plutôt choisi en 2016 de se lancer en politique au sein du parti Comunes, qui devait aussi relayer certaines de ces revendications sociales ou agraires portées par les FARC. Est-ce qu'on peut, là-dessus, Julie Massal, faire un rapide bilan? Il dispose, ce parti, d'un siège au Congrès en vertu de l'accord de paix. Qu'est-ce qu'il en a fait de ce siège-là? Et surtout, est-ce qu'il a réussi à convaincre au-delà des électeurs qu'il peut avoir depuis le début?
En fait, effectivement, l'accord de paix prévoyait d'avoir, pour les FARC, quels que soient les résultats électoraux qui devaient suivre, 5 sièges au Congrès.
5 sièges, pardon, oui, voilà, c'est ça.
Pas un... Et 5 sièges au Sénat, donc une dizaine de sièges attribués, on va dire, d'office, indépendamment donc des résultats électoraux. Et donc, ce qui leur a permis, effectivement, d'avoir ces sièges au début. Alors après, effectivement, certains sièges ont été perdus parce que certaines personnes qui les occupaient ont été arrêtées. Mais donc, ça leur a permis d'avoir quand même 10 sièges, alors que si on regarde les résultats électoraux, ils n'ont jamais réussi à franchir la barre des 1%. Par exemple, en mars 2018, donc les premières élections législatives qui ont suivi l'accord de paix, ça faisait moins de 1%. Et par exemple, si on regarde les dernières élections locales, donc que ce soit les députés, les maires ou des gouverneurs au niveau des départements qui ont eu lieu en octobre 2023, le Parti communiste n'a obtenu que 2 élus locaux et pas au niveau les plus élevés. Donc vraiment, c'est pas du tout un raz-de-marée politique ni quoi que ce soit à ce niveau-là. Et ils ont parfois fait des alliances avec d'autres partis, mais pas forcément avec des partis dits de gauche. Et c'est pas forcément non plus dans les zones où les FARC étaient influentes auparavant, militairement parlant, que ces élus ont pu, soit seuls, soit en alliance, ont pu être élus. Donc en fait, c'est quand même une dimension encore très restreinte de cette réintégration ou de cette réincorporation. Qui montre que le discours FARC n'a pas forcément été traduit comme un discours qui peut se reproduire, disons, ou se transmettre à d'autres partis de gauche. Et en plus, on a une extrême dispersion là aussi de toutes les organisations électorales, mouvements, partis, etc., où on peut avoir plus d'une quarantaine de partis ou de mouvements qui sont candidats pour des élections. Et finalement, c'est très difficile d'avoir effectivement une visibilité sur quels sont les discours majoritaires qui s'imposent dans ces élections. Donc je dirais juste pour conclure sur ce plan-là que politiquement, institutionnellement, les FARC n'ont pas réussi à se réincorporer à la vie politique colombienne.
Et le fait que Gustavo Petro, le président actuel, soit lui-même un ancien combattant au sein du groupe M19, qui était beaucoup plus urbain, c'était un groupe armé qui recrutait surtout dans les milieux étudiants dans les années 70, le fait qu'il ait lui-même bénéficié d'un programme de démobilisation, pour l'instant, ne lui a manifestement pas donné la clé pour convaincre tous ces autres groupes armés qui sévissent, comme l'ELN, à déposer les armes. Lui-même, d'ailleurs, Gustavo Petro avait bénéficié d'un programme de démobilisation. La Colombie a une longue expérience en la matière. Camille Boutron, combien de temps doit encore durer ou peut durer ce programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des FARC, enclenché par l'accord de paix de 2016, puisque vous disiez l'une et l'autre que ce n'était pas terminé?
Oh, alors c'est loin de terminer, mais le combien de temps, ça part de... Qu'est-ce qu'on appelle être une réintégration, une réincorporation terminée, puisque le désarmement, ça a duré 6 mois. La démobilisation, c'est-à-dire le passage d'un groupe, d'une organisation politico-militaire à une organisation civile qui est démantelée pour être reformée en tant que parti, ça a duré pas très longtemps non plus. En revanche, la réinsertion dans la vie civile et surtout retrouver une place qui ne soit pas... une place. Je pense que l'enjeu pour beaucoup des combattants des FARC, et d'ailleurs c'est un petit peu ce que pose le féminisme insurgent, hein, des Farianas, des ex-combattantes qui se sont engagées dans les mouvements féministes, c'est de se dire de quelle façon on peut prendre notre place dans la société sans tourner le dos à ce qu'on a été et à ce qu'on a fait. Comment on peut réinvestir notre expérience dans la lutte armée pour trouver une place. Ça, c'est extrêmement difficile parce qu'il y a le regard des autres, parce qu'il y a tout un ensemble de discriminations, de marginalité, et que ça prend du temps. Et typiquement, un vrai temps, c'est une génération. Regarder ce processus pendant 10 ans. Regardez mes ex-combattants, mes amis ex-combattants, Patricia et Raphaël, ils viennent tout juste d'avoir leur terre. Donc, ce n'est que le début pour eux. Parce qu'ensuite, il faut l'aménager, il faut avoir l'accès à l'eau, il faut construire leur maison. Et tout ça, pour eux, fait partie du processus.
Donc, et on a bien entendu. Et on a bien entendu tout à l'heure que leur cas était particulier à Patricia et Raphaël, qu'ils étaient très organisés, qu'ils avaient fait des économies et que c'est pour ça aussi qu'ils s'en sortaient bien aujourd'hui. No aguanto la gente en la calle, en la fucking ciudad. Solo quisiera alargarme en un viaje interplanetario, pero no servirá.
No puedo parar de insultar, todo el mundo me agobia. Sonó tu fucking canción en la fucking recola del bar. Borracho, quisiera pelearme o perderme en la noche. Pero no servirá, pero no servirá, pero no servirá. Nada tiene sentido, ya no hay luz en mi casa. Si no brillas conmigo, desde que te vi llorar.
Tevi Lorando, je t'ai vu pleurer, chantait ce groupe Turista en 2019. Turista, un groupe péruvien. Et c'est au Pérou que se poursuit ce deuxième épisode sur les guérillas et l'enjeu de leur démobilisation. Contrairement à la Colombie, aucun processus n'a été engagé au Pérou avec les anciens combattants du Sentier Lumineux.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Fondée par le professeur de philosophie Abimael Guzman en 1970, le Sentier Lumineux était un mouvement maoïste qui a choisi la lutte armée au début des années 80. Ces violences sur les populations civiles, paysannes, mais aussi la riposte de l'armée, ont fait jusqu'en l'an 2000 70 000 morts, 22 300 disparus. D'anciens membres du Sentier Lumineux avaient monté le mouvement pour l'amnistie et les droits fondamentaux, le MOVADEF, pour instaurer un dialogue avec l'État, mais sans succès.
Je suis le sous-secrétaire du MOVADEF. Ils nous persécutent, ils nous font des procès, ils arrêtent nos membres alors qu'ils n'ont commis aucun acte de terrorisme. Ils nous rejettent pour des raisons idéologiques, parce que nous sommes des marxistes, léninistes, maoïstes.
Bonjour Valérie Robin-Azevedo.
Bonjour Julie Gacon.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeure d'anthropologie à l'Université de Paris-Cité et chercheuse à l'unité de recherche Migration et Société, l'URMIS. Peut-être d'abord, est-ce qu'il y a eu dans le passé un lien de parenté, des liens tout court entre le Sentier Lumineux et les FARC ?
Des liens avec les FARC, je ne saurais pas vraiment dire, a priori pas tellement, en tout cas pas d'un point de vue structurel. Par contre, la grande différence, je dirais, sur la gestion du post-conflit entre la Colombie et le Pérou, c'est que on n'envisage jamais au Pérou les membres du Sentier Lumineux comme des groupes armés ou une guérilla, mais uniquement par le prisme de groupes qualifiés de terroristes, ce qui a des conséquences très importantes en termes de démobilisation, ou pas du tout de démobilisation d'ailleurs, dans ce qui s'est passé au Pérou.
Ce qui s'est passé au Pérou, c'est que contrairement au FARC, le mouvement du Sentier Lumineux était très vertical, avec un homme à sa tête, Abimael Guzman, qui est mort en prison il y a 4 ans. Quand il avait été arrêté en 1993, il avait appelé le mouvement à déposer les armes. Est-ce que cet appel avait été suivi d'effet ?
Alors effectivement, lorsque la direction centrale, toute la tête en fait du Sentier Lumineux est arrêtée en 92, ils arrivent à négocier en fait avec le gouvernement un supposé accord de paix un an plus tard, en appelant effectivement les partisans à déposer les armes et à mettre fin à la lutte armée. On a quelques séditieux, mais disons qu'à la fin des années 90, le mouvement historique du Sentier Lumineux est totalement défait. Militairement. Donc on a effectivement, c'est pour ça que la commission de la vérité et réconciliation ultérieure fixe en gros le conflit armé à 80 jusqu'à 2000.
Le 2000 qui est d'ailleurs la fin du mandat d'Alberto Fujimori, l'ancien président du Pérou qui est mort en septembre dernier, 9 mois après être sorti de prison, où il purgeait une peine de plusieurs années pour des crimes contre les droits humains, entre autres car la répression aussi du Sentier Lumineux a causé beaucoup de pertes parmi les populations civiles. Combien d'hommes aujourd'hui se réclament encore du Sentier Lumineux, quand bien même ce serait un nombre infime, Valérie Robin-Azevedo, quand il y a aujourd'hui des affrontements armés dans certaines régions du Pérou, est-ce que certains disent, se revendiquent comme du Sentier Lumineux?
Alors, en fait, il faut savoir que le Sentier Lumineux en tant que tel est vraiment défait à partir de la fin des années 90 et qu'aujourd'hui, on n'a plus de militants qui se revendiqueraient du Sentier Lumineux pour poursuivre la lutte armée. C'est-à-dire que depuis la demande des accords de paix, donc il y a plus de 30 ans quand même, par Abimael Guzman, en fait, ces fidèles sont passés à un autre type de mobilisation politique qui était justement la possibilité pour ceux qui sortaient de prison après avoir été condamnés et incarcérés de tenter de se réintégrer à la vie civile par une participation politique aux élections, ce qui leur a été refusé.
D'accord, parce qu'il me semblait, si je vous posais cette question-là, j'avais bien entendu que vous aviez dit juste avant que le Sentier Lumineux avait été défait militairement et néanmoins il y a eu des affrontements il y a quelques mois dans une région du nord de l'Alto Huallaga avec un petit groupe évalué à 30-40 personnes dont le chef s'appelle Camarade Artemio et qui lui se dit toujours fidèle à la pensée d'Abigail Guzman, mais il ne semble pas représenter grand-chose et surtout à chaque fois que le gouvernement péruvien parle d'affrontements armés comme étant des reliquats du Sentier Lumineux, est-ce que c'est possible de vérifier les dires à chaque fois, soit du gouvernement, de la presse péruvienne, parce que ça revient néanmoins dans les titres de la presse.
Bien sûr. Voilà. Bien sûr, absolument. En fait, ce qui se passe, c'est que le Sentier Lumineux en tant que tel n'existe plus. Ce qui reste aujourd'hui, et notamment dans la zone de narcotrafic, de trafic de cocaïne en Amazonie, c'est une espèce de narco-guérilla. Et en réalité, le lien avec le Sentier Lumineux historique n'est plus. Ce qui reste, en revanche, c'est surtout, bien sûr, l'instrumentalisation par les gouvernements successifs et notamment les plus récents du fait qu'il existerait toujours une menace terroriste liée au Sentier Lumineux, que les groupes armés, on parlait tout à l'heure notamment de confusion des genres dans ces groupes armés en Amazonie liés au narcotrafic, mais en réalité ce n'est plus lié avec le Sentier Lumineux historique. En revanche, il y a une instrumentalisation de l'accusation effectivement de tous les opposants politiques sous l'étiquette et l'idée qu'ils seraient associés au Sentier Lumineux. Et que donc, tous ceux qui se réclament, ou qui, même sans se réclamer hein, d'ailleurs, du Sentier Lumineux, sont accusés d'être des terroristes ou affiliés, on va dire, à cette guérilla qui, dans les faits, n'existe plus. Ce qui reste, ce sont des groupes armés liés à des cartels de drogue, mais ça, c'est autre chose. Par contre, il y a une instrumentalisation politique qui est parallèle, je dirais, de, par exemple, le fait que des lois d'amnistie, mais qui viennent d'être promulguées l'année dernière, justement, qui bénéficient des militaires et des policiers impliqués dans des crimes et des violations des droits de l'homme durant le conflit armé. Voilà.
Alors le philo-sentirisme, c'est l'accusation en vogue, je crois, quand on accuse quelqu'un de faire partie du Sentier Lumineux ou de d'adhérer à ses idées, on parle de philo-sentirisme, c'est un peu l'accusation de wokisme péruvienne, si j'ai bien compris. L'utilisation est faite en tout cas à tout bout de champ et même encore quand il y a eu en janvier des attaques à l'explosif dans la capitale Lima, dans un hôtel, dans différentes zones résidentielles, devant une discothèque qui ont fait 12 blessés. Tout de suite, la presse péruvienne a titré sur le climat de terreur qui rappelait les années d'insurrection armée du Sentier Lumineux. Alors, vous disiez tout à l'heure, Valérie Romain Azevedo, que l'accès à la vie politique a été refusé d'emblée aux anciens combattants du Sentier Lumineux qui souhaitaient, qui avaient fait la démarche de dire on dépose les armes mais on voudrait s'engager en politique. En 2009, néanmoins, a été fondé le mouvement pour l'amnistie et les droits fondamentaux par d'anciens membres du Sentier Lumineux et d'anciens prisonniers, le Movadef. Pourquoi s'est-il battu et pourquoi a-t-il été dissous? Et c'est tout récent, c'était en octobre dernier.
Exactement. En fait, ce groupe se constitue donc avec d'anciens prisonniers du Sentier Lumineux qui avaient purgé leur peine et qui sortent de prison et qui tentent effectivement de se constituer à la fois en parti politique et aussi d'obtenir une amnistie générale qui bénéficie à la fois des militaires et des policiers. Alors ça leur sera refusé. En fait, au départ, s'ils ont la possibilité de s'exprimer publiquement, progressivement, on va avoir effectivement toute une série d'empêchements et d'accusations en fait de ce groupe comme étant un groupe qui reste un groupe terroriste, bien qu'il n'y ait eu aucun attentat perpétré par ce groupe et que d'ailleurs la police n'a jamais réussi à le démontrer. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que à mesure que s'éloigne le conflit armé, de façon un peu surprenante, on voit une instrumentalisation politique de cette accusation de terrorisme qui s'appuie en fait sur une culture de la peur et en fait un régime qui relève, on pourrait dire, selon certains auteurs, d'une sorte de démocratie antisubversive, c'est-à-dire un régime qui est formellement démocratique, mais où on a une restriction des libertés d'expression, une persécution effectivement des opposants politiques, qu'ils soient du Movadef ou d'autres. et avec en fait un renforcement d'une législation antiterroriste qui se durcit avec une situation de dégradation à la fois démocratique et de respect des droits humains.
Et peut-être un mot sur le comité Vérité et Réconciliation qui s'est mis en place. Je pense qu'il est complètement terminé. C'était 2001-2003, mais il me semble que régulièrement encore, il prend parfois la parole, le comité Vérité et Réconciliation, pour, par exemple, de temps en temps démentir le gouvernement quand il dit que des hommes qui ne se réclament pas du sentier lumineux, en fait, en font partie, qui commettent des crimes dans la vallée des fleuves Apurimac et Ainé, par exemple, une très grande région forestière dans le sud-est. Parfois, la commission Vérité et Réconciliation intervient en disant que ces hommes sont liés au narcotrafic, qu'ils n'ont aucun lien avec le sentier lumineux. Sous quelle forme existe-t-elle encore, cette commission Vérité et Réconciliation ? Comment on peut juger son travail aujourd'hui ?
Alors, la commission Vérité et Réconciliation n'existe plus en tant que telle, mais elle avait été constituée par des ONG de défense des droits humains qui, eux, continuent à essayer de travailler, mais eux-mêmes étant accusés régulièrement de faire l'apologie du sentier lumineux ou l'apologie du terrorisme. Et donc, la capacité en fait d'action de ces ONG est extrêmement, je dirais, limitée et leur possibilité d'action chaque fois plus restreinte. Hein. On parle aujourd'hui de gouvernement actuel plus par les chirurgies esthétiques de la présidente, mais en réalité, on a un mouvement effectivement de recul démocratique qui est assez préoccupant.
Merci beaucoup Valérie Robin Azevedo d'avoir été avec nous, professeure d'anthropologie à l'Université de Paris-Cité et chercheuse à l'URMIS. Peut-être Camille Boutron, un petit mot de conclusion, parce qu'il se trouve que vous connaissez très bien le Pérou aussi, en plus de la Colombie. Quels éléments vous paraissent fondamentalement différents dans les contextes péruviens et colombiens, ou au contraire, les similitudes qui vous paraissent intéressantes à relever en quelques mots ?
Alors, il y a surtout une différence quand Fujimori arrive au pouvoir dans les années 90. Rappelons-nous, c'est la crise de la dette. Les pays latino-américains, ils transforment complètement leur économie pour suivre les injonctions du FMI. Ça devient des États très minimum, avec des gros réajustements et privatisations. Et tout cela s'est fait de façon très brutale pour les populations, avec un creusement des inégalités. Et je pense que dans le cas du Pérou, il est très important de lire la politique antisubversive que Fujimori met en place dans les années 90 avec une criminalisation généralisée de la protestation sociale et la mise en place de ces réformes qui sont souvent et qui sont encore célébrées. Et ça, c'est vraiment un cas très particulier pour le Pérou.
Merci.
Qui n'est pas le cas colombien et qui est important à prendre en compte.
Merci beaucoup Camille Boutron. Je rappelle le titre de votre livre, Femmes combattantes, paru aux éditions Les Pérégrines dans la collection Genre l'année dernière. On espère aussi pouvoir suivre les aventures et la reconversion surtout de Patricia et Raphaël dont vous nous avez parlé, ces anciens combattants phares qui se sont démobilisés pour le dire vite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci à Julie Massal, chercheuse associée à l'Institut français des études andines, d'avoir été avec nous en duplex depuis les bureaux de Radio France à Lyon, grâce à Chantal Nouvelot. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et on reste en Amérique latine, Catherine, en Argentine, où des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue hier pour commémorer le 49e anniversaire du coup d'État de 1976.
Malgré la pluie, c'est une marée humaine qui a rempli la place de Mai à Buenos Aires et les avenues attenantes. Un exploit, soulignent les journaux argentins Clarín et Perfil, car pour la première fois depuis plus de 20 ans, les organisations politiques de gauche ou péronistes, kirchneristes, les syndicats, les citoyens ordinaires se sont tous unis sous une même bannière pour une journée du souvenir, de la vérité et de la justice contre la dictature de 76 à 83 qui a fait plus de 30 000 disparus, rappelle Infobae, mais dont les chiffres sont contestés par l'actuel président Javier Milei. Et c'est bien sa politique ultralibérale, une forme de négationnisme aussi de la dictature et la répression policière des mouvements sociaux de ces dernières semaines, ajoute le quotidien La Prensa et El País América, qui ont conduit à cette manifestation massive. On défilait donc des dizaines de milliers d'Argentins brandissant des photos de disparus, comme le montre Perfil dans un reportage photo, certaines avec un foulard blanc sur la tête, comme les grands-mères et les mères de la place de Mai, qui réclament l'identification et le retour des 400 bébés volés sous la dictature. Des manifestants portant aussi des t-shirts avec écrit « Plus jamais ça, Nunca más », voire une variante « Nunca Musk » pour rappeler la proximité d'Elon Musk avec le président argentin Javier Milei. qui a mené des coupes drastiques dans le budget de l'État sur le plan social et mémoriel, rappelle El País America et la Deutsche Welle. Le président argentin a par exemple paralysé les sites commémorant les crimes du terrorisme d'État. La tronçonneuse présidentielle a également laissé sans ressources la structure institutionnelle qui collaborait avec les grands-mères de la place de Mai dans la recherche des enfants disparus, alerte El País America.
Donc la journée nationale de la mémoire de la dictature a tourné à la manifestation anti-Milei.
C'est en tout cas l'avis d'El País America et de Griselda, une jeune manifestante interrogée par la chaîne télévisée argentine C5N. Griselda, choquée par la répression policière de ces dernières semaines contre les citoyens, les retraités notamment, qui ont défilé dans la rue contre l'austérité.
Ce sont des risques que l'on sait que con gobiernos de derecha siempre pasan.
On sait que ça peut arriver avec un gouvernement de droite, affirme Griselda au micro de C5N, mais on doit leur montrer que la liberté, l'amour sont beaucoup plus forts, que l'on peut sortir dans la rue, dire ce que l'on pense être juste. Nous avons le droit de manifester, insiste la jeune femme. À ses côtés, son père, de 63 ans, qui dit sa fierté d'être place de Mai avec ses filles, mais il se dit préoccupé, en revanche, par la passivité de la population le reste du temps. Cette passivité pourrait ne pas durer, prévient El País America, car la manifestation d'hier était la troisième d'importance à laquelle le président Milei a dû faire face en moins de 2 semaines, preuve que la rue commence à surchauffer selon El País America. La CGT en Argentine appelle à une grève générale le 10 avril prochain, alors que le Parlement argentin a donné lui son feu vert au gouvernement pour finaliser avec le FMI un nouveau prêt crucial pour éviter la banqueroute du pays, rappelle le journal El Economista. L'austérité qui l'accompagne fait des ravages, notamment chez les retraités qui vivent en majorité sous le seuil de pauvreté, indique Infobae, la BBC et la Deutsche Welle, devant se priver de médicaments, de nourriture, avec des aides sociales qui se réduisent à peau de chagrin sous la présidence Milei. Une source de honte, s'indigne le journal Clarín. Plus de la moitié des enfants argentins vivent également sous le seuil de pauvreté. Et donc hier, place de Mai, les manifestants ont également entonné des chants comme « Milei, ordure, tuer la dictature », alors que le gouvernement assigne par ailleurs les crimes commis par les guérilleros à ceux de la dictature.
Pour conclure, Catherine, l'administration de Donald Trump qui transmet par accident ce plan d'attaque à un journaliste.
Une histoire incroyable à la une de tous les journaux aux États-Unis. Le rédacteur en chef du prestigieux magazine The Atlantic, Jeffrey Goldberg, s'est retrouvé dans une boucle de messages sur Signal avec des responsables de la sécurité nationale américaine qui l'ont invité à participer à une discussion de groupe sur les frappes militaires à venir au Yémen contre les Houthis. Je ne pensais pas que c'était possible, explique Jeffrey Goldberg, qui a d'abord cru que le message d'invitation venait peut-être d'individus malveillants se faisant passer pour des membres de l'administration Trump. Mais non, il s'agissait bien de Michael Waltz, conseiller à la sécurité nationale du président Trump, parmi les autres participants, le vice-président J.D. Vance, le secrétaire à la défense Pete Hegseth et d'autres hauts collaborateurs, indique The Atlantic et le Washington Post. Capture d'écran à l'appui d'ailleurs. C'est une simple bévue, voire une fausse information, si l'on en croit Fox News, de la part d'un soi-disant journaliste de The Atlantic, comme le dénonce le secrétaire américain à la défense Pete Hegseth. Mais pour d'autres, comme SNBC News, il s'agit bien d'une erreur colossale, une faille de sécurité retentissante, sacrément ironique et hypocrite de la part de Trump qui avait incendié sa rivale démocrate Hillary Clinton lors de la présidentielle de 2016, rappelle le Washington Post. Le républicain l'avait attaqué pour avoir envoyé des courriers électroniques officiels via une messagerie privée quand elle était secrétaire d'État. Le ministre de la Défense devrait avoir un peu d'honneur et démissionner, selon un éditorialiste du Times. Pete Hegseth vient de ruiner sa crédibilité en tant que chef militaire.
Merci beaucoup, Catherine Dutu.